Bonjour chers auditrices et chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. La migraine fait partie de la grande famille des maux de tête ou céphalées. C'est une crise qui apparaît progressivement et qui est précédée ou non de signes annonciateurs. La migraine est unique par sa durée, son intensité et par sa douleur qui est ressentie en général d'un seul côté de la tête ou localisée près de l'œil. La douleur est perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne et elle est aggravée par la lumière, le bruit et parfois les odeurs. La migraine peut aussi s'accompagner de nausées et de vomissements. Comment prévenir les migraines? Comment les traiter? Comment vivre avec les migraines?
Il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Voilà les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo-Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Lino Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. C'est le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur la prévention des migraines. Bonsoir professeur.
Et bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons cette fois-ci aborder la question de la prise en charge et de la prévention des migraines. Mais avant cela, j'aimerais que nous revenions sur les causes des migraines.
Je serais pour vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Est-ce que les migraines constituent une des raisons pour lesquelles les gens viennent vous consulter?
Dans le monde entier, le premier motif de consultation est constitué par les douleurs. Et parmi ces douleurs, le mal de tête ou le mal de l'extrémité du corps, donc tête et une partie du visage, occupe une place prépondérante. Mais tout n'est pas migraine.
Tout n'est pas migraine. Que peut-il y avoir encore derrière un mal de tête?
Et parmi ces maux de tête, en dehors de la migraine et de certaines causes que j'ai citées, vous avez une bonne partie de maux de tête qui vont être des maux de tête liés souvent à un état psychologique, à une anxiété, à une dépression, à un mal-être ou à d'autres choses qui sont absolument subjectives, avec un fondement psychologique grave ou souvent pas grave et qui vont être absolument fréquentes. Mais en général, dans les sphères des neurosciences, que ce soit la neurologie, les sciences psychologiques, la neurochirurgie, vous allez avoir cette plainte qui est très récurrente. Et dans tout ce qui touche à la tête, les sinus, les oreilles, les yeux, donc chez les ophtalmologues, les ORL, vous allez aussi avoir des plaintes qui tournent autour de cette sphère-là.
D'où l'importance de consulter un spécialiste.
Le but après du spécialiste, c'est de dire ça c'est de l'ORL, ça c'est de l'ophtalmologie, ça c'est de la dentisterie, ça c'est de la neurologie, ou ça c'est de la psychologie ou de la psychiatrie. Oui, les gens viennent consulter, comme partout ailleurs en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, quand un mal de tête devient chronique, c'est-à-dire va durer quelques semaines ou quelques mois jusqu'à provoquer une certaine inquiétude qu'il doit faire consulter.
À quel moment devrait-on consulter un spécialiste ou un médecin quand on a mal à la tête?
Très tôt, parce que plus tôt on fait un diagnostic, et mieux sera instituée la bonne prise en charge.
Une fois que le diagnostic est établi et qu'on sait que le patient souffre des migraines, est-ce que le patient peut juste se contenter de traiter ses migraines à la maison ou il doit nécessairement suivre un traitement avec un médecin?
Alors, la prise en charge de la migraine répond à certaines règles.
Et quelles sont ces règles?
Première règle, il faut voir s'il existe des facteurs déclenchants ou pas. S'il en existe, par exemple, si une personne dit, moi j'ai remarqué que chaque fois que je mange crevette ou chaque fois que je mange tel mets ou je bois telle chose, quelques instants plus tard, je déclenche ma migraine. Ou quand une jeune femme dit que moi c'est au déclenchement de mes règles que systématiquement ma migraine se déclenche. Ou quand il fait très chaud ou quand il fait très froid. Donc quand il existe un facteur déclenchant qu'on peut gérer, qu'on peut manager, il faut y prêter la plus grande attention, soit l'éviter, soit essayer de la maîtriser. Je sais que ce n'est pas toujours envisageable. Deuxième règle, il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Quelle est la troisième règle? En quoi consiste-t-elle?
Troisièmement, vous avez consulté, le médecin vous a prescrit une ordonnance et en général sur cette ordonnance, le médecin vous dira ce médicament-ci, dès que la crise est en train de s'installer, prenez-le tout de suite. Ou quand la crise est déjà installée, prenez ce médicament-là. Vous en prenez à telle dose par jour. C'est ce qu'on appelle le traitement de la crise. C'est donc un groupe de médicaments, donc des antidouleurs, qu'on prend au début ou au cours de la douleur de migraine se déclenchant ou déjà déclenchée. Il existe la troisième composante qui est ce qu'on appelle le traitement de fond.
Quel est le but fondamental de ce traitement de fond?
Le traitement de fond est que beaucoup le patient néglige est très important parce que c'est un médicament dont le but est de diminuer la fréquence de récidive des crises douloureuses de migraine ou si malgré tout la migraine se déclenche tout de même, l'intensité va être amoindrie parce que vous respectez ce traitement de fond.
Ce traitement de fond, est-ce un médicament? Comment est-il administré?
En général, c'est un médicament qu'on prend une ou deux fois dans la journée et qu'on doit prendre sur une période assez prolongée pour atténuer la crise de migraine ou diminuer sa fréquence de récidive. Mais plusieurs personnes, dès qu'ils n'ont plus mal, ils arrêtent le traitement de fond. Alors c'est ça qui prévient la crise de migraine. Et enfin, la dernière composante sur laquelle j'anticipe, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie.
Et qu'est-ce que vous entendez par bonne hygiène de vie?
L'hygiène de vie, ce sont des règles de style de vie, des conseils qu'on donne à tout le monde, mais qui vont s'appliquer formidablement chez une personne qui souffre de crise de migraine. On peut en citer quelques-uns de ces recommandations ou quelques-unes de ces recommandations, quelques conseils. Premièrement, il faut veiller à avoir un sommeil nocturne de bonne qualité.
Comment peut-on mesurer la qualité d'un bon sommeil?
C'est-à-dire quand on finit par savoir le nombre d'heures dont on a besoin pour se sentir reposé et en forme, ce qui est variable selon les personnes, variable selon les âges, mais au minimum, un être humain, un adulte, doit s'arranger pour dormir au minimum 6 heures de temps la nuit. Minimum. Il y en a qui ont besoin de 7 heures, d'autres 8 heures, mais le minimum, c'est 6 heures de temps. Un sommeil, donc, où on respecte la durée du sommeil et on se met dans un environnement qui favorise la qualité de sommeil.
Pourquoi est-ce si important de veiller à la qualité de son sommeil?
Parce que durant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui sont régulées, beaucoup de choses qui sont réparées, que ce soit dans le corps ou dans la tête. Deuxièmement, il faut veiller à respecter une activité physique sportive. Il faut que au moins 4 fois dans la semaine, on dit 3 fois, mais moi je dis 4 fois dans la semaine, il faut s'organiser, trouver le temps de faire une activité sportive.
Quelles sont ces activités sportives qui peuvent être recommandées dans ce cas-là?
Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être de la danse, ça peut être du football. On fait ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Mais bouger au minimum pendant 30 minutes et 3 ou 4 fois dans la semaine. Troisième recommandation, il faut veiller à avoir une hygiène alimentaire, évitant les excès de sel, de sucre, de matières grasses, et veiller à boire suffisamment d'eau dans la journée.
Pourquoi il est important de boire l'eau et quelle est la quantité d'eau qu'on devrait boire chaque jour?
Beaucoup de personnes souffrent de plusieurs types de douleurs et quand vous les interrogez, ils ne boivent pas. On ne boit pas suffisamment d'eau. Alors qu'un adulte doit boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour entre son réveil jusqu'à 20 heures. Un enfant, au minimum, environ 1 litre d'eau dans la journée. Je dis 20 heures parce que quand on boit trop tard le soir, on risque d'avoir des envies nocturnes qui vont vous réveiller et qui vont perturber la qualité de votre sommeil.
Et qu'en est-il du stress, professeur?
L'autre conseil est plus difficile à respecter. Il faut essayer d'éviter tous les facteurs de stress, que ce soit des stress personnels, professionnels et autres, mais il faut en tout cas essayer de prendre la vie avec certaines philosophies, surtout quand les facteurs de stress déclenchent votre migraine.
Nous vous remercions beaucoup, professeur, pour votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. C'était notre entretien avec le professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Maintenant, place à Carnet de Santé présenté par Lilan Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, l'espérance de vie en bonne santé connaît une hausse de près de 10 ans en Afrique. Quel est le facteur le plus important pour vivre longtemps et en bonne santé? Nous avons recueilli votre avis. Et des réfrigérateurs à énergie solaire sont utilisés pour transporter des vaccins vers des communautés isolées au Kenya. Enfin, l'OMS rebaptise les variants de la variole du singe. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. L'espérance de vie en bonne santé dans la région africaine a augmenté de près de 10 ans entre 2000 et 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé. D'après le rapport de l'OMS intitulé « Suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine de l'OMS 2022 », le nombre d'années en bonne santé d'une personne en Afrique est passé à 56 ans en 2019 contre 46 ans en 2000. L'amélioration de la prestation des services de santé essentiels, les progrès en matière de santé reproductive et infantile, ainsi que les avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses sont certaines raisons qui ont contribué à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Cependant, ces progrès pourraient être compromis par l'impact de la pandémie de COVID-19, selon les experts. De plus, ils mettent en garde contre l'augmentation importante des cas de maladies non transmissibles, tels que le diabète et l'hypertension. Les avancées médicales permettent de vivre plus longtemps et en bonne santé, mais de nombreuses personnes perdent la vie à cause de problèmes de santé comme le paludisme, le VIH, l'obésité et le Covid-19. Selon vous, vit-on plus longtemps maintenant par rapport aux générations précédentes? À votre avis, quel est le facteur le plus important pour une vie longue et en bonne santé? Voici quelques réactions du Nigeria.
Avec toutes les maladies que nous avons vues et toutes celles à venir et les pandémies, je ne pense pas que cette génération aura une espérance de vie plus longue. Actuellement, nous disposons de nombreux équipements médicaux que ceux qui nous ont précédés n'avaient peut-être pas. Mais le défi pour notre génération est l'accessibilité de ces installations. Ceux qui y ont accès vivront certainement plus longtemps que ceux qui n'y ont pas accès.
Avant, beaucoup de femmes mouraient pendant l'accouchement et les enfants mouraient de tant de maladies. Ainsi, l'amélioration de la technologie médicale a beaucoup aidé dans ce domaine.
À mon avis, et ce n'est peut-être pas scientifiquement vrai, mais en regardant simplement ce que nous avons traversé depuis un certain temps maintenant, je pense que la génération ancienne vivra plus longtemps que nous. Les produits chimiques importés qui se trouvent dans notre nourriture ont eu un impact négatif sur nos vies.
We've got a shoot.
Nous avons un changement dans les différents types de variants de maladies, la dernière étant le Covid-19, et bien sûr, les chiffres sont très clairs sur le nombre de personnes qui sont décédées du Covid-19. Et si vous regardez les chiffres, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Nous savons également qu'à l'époque, des maladies telles que le paludisme et d'autres faisaient des ravages, et que le paludisme est encore répandu en Afrique aujourd'hui. Nous sommes donc dans une situation où nous n'avons pas éradiqué les maladies du passé et où de nouvelles maladies sont venues s'y ajouter. Et cela a des conséquences sur la vie des Nigériens et des Africains.
Tout le monde devrait connaître son état de santé, ce qui signifie que les gens doivent subir un contrôle de routine qui ne peut être abordable et accessible que si les citoyens ont accès à un grand nombre de structures sanitaires.
Je vois certaines personnes qui croient que la science est améliorée en termes de conservation des aliments, mais je pense qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de la conservation des aliments parce que si nous consommons des produits naturels, je pense que nous serons en mesure d'atteindre la longévité de nos ancêtres.
Le docteur Deborah Makel est pédiatre à l'hôpital Arusha Lutheran Medical Center. Elle nous en dit plus concernant l'espérance de vie en bonne santé.
L'espérance de vie diffère selon les régions du monde. Je suppose que cela dépend uniquement de l'état de santé du pays, du statut socio-économique du pays et de la démographie du pays. Nous nous attendrons bien sûr à ce que l'espérance de vie soit un peu plus élevée dans les pays développés que dans les pays à faible statut socio-économique comme la Tanzanie. Il faut tenir compte du genre, de la génétique générale de la personne. Ce sont des facteurs différents mais qui influencent l'espérance de vie. L'accès aux soins de santé, le régime alimentaire, le mode de vie actuel et bien sûr la stabilité politique du pays, guerre, criminalité, etc., ont une grande influence sur l'espérance de vie. La santé de l'enfant a un impact très important sur votre espérance de vie. En tant que pédiatre, nous pensons que les 1000 premiers jours de la vie, de la naissance à moins de 5 ans, sont les plus importants pour former un enfant. Et c'est là qu'il faut faire les choses correctement sur les plans nutritionnels et social, parce qu'ils n'ont pas seulement un impact sur la croissance de l'enfant, mais aussi sur sa santé cognitive et sur la façon dont il va évoluer à long terme. En ce qui concerne le rapport actuel, il est encourageant en tant que clinicienne de constater que notre espérance de vie a augmenté. Je pense que ces dernières années, il y a eu tellement de progrès dans les soins de santé, il y a également eu beaucoup de progrès économiques dans différents pays. Nous avons maintenant une population qui grandit jusqu'à l'âge adulte. Nous avons une population qui atteint les 80, 90 et 100 ans. Nous n'avons pas vraiment investi dans les soins palliatifs et à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup de maisons de retraite. Les gens grandissent jusqu'à la vieillesse, mais maintenant, que faisons-nous de ces personnes jusqu'à la vieillesse? Nous savons que la vieillesse est associée à de nombreux facteurs de risque. Nous sommes confrontés à une crise des maladies non transmissibles parmi la jeune génération.
Among the youngest generation. L'Organisation mondiale de la santé a rebaptisé les variants de la variole du singe en remplaçant par des chiffres romains les noms de régions africaines dans le but d'éviter toute offense culturelle ou sociale, a expliqué l'OMS dans un communiqué. Le groupe de variants du bassin du Congo est désormais clade 1 et clade 2 pour les variants de l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier se compose de deux sous-clades. L'OMS examine également de nouveaux noms pour le virus du monkeypox dans son ensemble, jugé stigmatisant. D'autre part, des chercheurs de l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie de Pékin ont identifié un nouveau henipavirus détecté chez 35 patients entre 2018 et 2021. Ils affirment que la maladie nommée Langia henipavirus ou Lévi a probablement été transmise aux humains par la moussaraigne, un mammifère ressemblant à une souris. Les patients ont signalé de la fièvre, de la fatigue, de la toux, ainsi que de l'anorexie, des myalgies et des nausées. Les chercheurs disent n'avoir observé aucun signe de transmission interhumaine. Les seules personnes à risque réel seraient donc celles qui ont des contacts fréquents et directs avec des musaraignes. Alors que les États-Unis sont sous le choc des récentes fusillades de masse, certains innovateurs se concentrent sur la prévention des décès et des blessures liées à ces incidents. Julie Thabot de VOA s'est entretenue avec quelques entrepreneurs qui ont développé des technologies de détection d'armes à feu. Récit Nanit Talani.
Boum, boum, j'ai entendu des coups de fusil.
Je vois des cadavres au sol.
La violence armée en Amérique a atteint des proportions épidémiques et de nombreux Américains en ont marre.
Nous sommes furieux, nous sommes dégoûtés.
Alors que le pays est divisé sur les droits d'accès aux armes à feu et les lois sur les contrôles des armes à feu, les récents tirs de masse dans une école, un supermarché et lors d'un défilé communautaire ont mis en lumière certaines technologies qui peuvent aider à réduire les décès par arme à feu.
J'ai vu des gens faire une technologie de reconnaissance faciale et je me disais, et si nous utilisons des caméras de sécurité existantes pour détecter les armes à feu?
La société de l'AIF, Zero-IS, a développé un logiciel de détection d'armes à feu qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données des caméras de sécurité existantes afin de rechercher une arme à feu. Une fois que le logiciel détermine qu'un pistolet est présent,
nous lançons une alerte qui passe à nos clients et il est simultanément au 911.
Juan Kekos Valley Regional High School, dans le New Jersey, a été le premier à mettre en œuvre le logiciel. L'école a mené un exercice de tireur actif avec la technologie qui les a conduits à la personne armée en 90 secondes environ, soit la moitié du temps qu'il a pris pour le même exercice sans la technologie.
Dans cette situation, il s'agit de minimiser le temps, ce qui minimise le nombre de victimes.
Parmi les grands sites publics, certains se sont tournés vers les portes de l'entreprise Evolve Technology qui ont des scanners utilisant rapidement des capteurs d'ondes millimétriques et d'autres technologies qui peuvent détecter les armes à feu et d'autres armes.
Nous utilisons une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle pour trouver et faire la distinction entre un téléphone et une arme à feu.
Jusqu'à présent, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis cette année. Bien que ces technologies ne puissent pas garantir la prévention d'autres fusillades, elles comptent parmi les efforts visant à mieux sécuriser les espaces publics.
Nora Majero est une ingénieure kényane qui a créé Vaxibox, un réfrigérateur mobile alimenté par l'énergie solaire qui stocke et distribue en toute sécurité des vaccins destinés à des zones reculées au Kenya. Elle est la première femme dans le pays à remporter ce prix et la deuxième en Afrique. Le récit est de Rosine Munezero.
Vaxibox est un réfrigérateur compact, mobile et alimenté par l'énergie solaire conçu pour stocker et transporter les vaccins en toute sécurité vers les populations isolées. Les conteneurs de 50 litres peuvent voyager sur deux roues. Il dispose également de deux prises de recharge USB et possède d'autres avantages.
Et c'est aussi un moyen de préserver l'environnement. Je veux dire que le réfrigérateur est alimenté par l'énergie solaire et qu'il permet de réduire la quantité de combustible fossile qui aurait été utilisé pour conserver les vaccins au froid. Et en plus de s'assurer que nous augmentons les technologies renouvelables qui sont utilisées dans le domaine de la santé.
Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, insiste pour que de plus grands efforts soient faits afin d'atteindre les populations difficiles à atteindre.
Les vaccins ont sauvé des millions de vies et il est important que les gouvernements s'attachent à stimuler les communautés les plus à risque, à trouver les personnes non vaccinées afin de construire le mur d'immunité vers l'objectif de 70% de vaccination.
Nora se dit prête à relever ce défi.
En regardant vers l'avenir, nous voulons embarquer autant d'investisseurs que possible pour venir travailler avec nous. Donc nous construisons notre propre atelier de production qui nous permettra de fabriquer plus d'unités Vaccibox et de servir notre liste d'attente croissante. Nous voulons également être préqualifiés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et obtenir leur certification. Et cette démarche nous permettra également de vendre autant de Vaccibox que possible et littéralement en tout lieu sur le continent.
Auparavant, l'infirmier Anthony Matali devait programmer les vaccinations à des jours précis. Les vaccins qu'il reçoit pour les campagnes de vaccination publique n'étaient viables que pendant une période relativement courte. Malgré les longues files d'attente, Matali et d'autres responsables de la santé devaient refuser des personnes en attendant l'arrivée du prochain lot de vaccins.
Donc, après l'installation de Vaccibox, au moins nous sommes capables de vacciner quotidiennement. Nous ne faisons plus de planning. Quand un client vient, on ne lui porte pas ou on ne lui dit pas de rentrer chez lui tous les jours. Nous le faisons donc à nouveau sur une base quotidienne. Nous sommes sûrs que la plage de température que nous utilisons est correcte, car l'étiquette du réfrigérateur est là et nous contrôlons que les températures sont dans la bonne plage.
Drop Access prévoit d'avoir 5 Vaccibox en circulation d'ici la fin du mois d'août. L'ingénieur Maguero dit aussi qu'ils ont un protocole d'accord pour en fournir environ 10 de plus d'ici la fin de l'année.
C'est la fin de ce magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous étions en compagnie du professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Le professeur Amadou Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN à Dakar. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop dans la capitale sénégalaise. Nous vous avons également présenté Carnet de Santé avec Linor Moudou. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro. À la réalisation, Tony Franker. À la présentation, Nani Totalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est la même, c'est zéro. Élevez-toi, tu seras élevé.
Lesquels eurent raison? Kérosène équilibre, Kiki Benteni, Molaré.
Souvent la naissance était des hommes, te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le pont y avance, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. En vue du ciel, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont
êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tous ceux qui t'ont jeté vont te respecter. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer.